Gabrel appréciait beaucoup les chevauchées hivernales dans la forêt en compagnie de Tovein et Loghain, qui les laissaient toujours avancer à leur rythme, leur concédant un peu d'intimité tant qu'elles ne traînaient pas trop loin derrière lui. Pourtant, les deux Aes Sedai se parlaient rarement, y compris quand elles se retrouvaient pour de bon en privé. Logique, puisqu'elles n'étaient pas amies, et même loin de là. Quand Loghain proposait ses promenades, Gabrel aurait donné cher pour que Tovein refuse de venir. Être vraiment seul aurait été si agréable. Tenant les rênes d'une main gantée de fer, l'autre serrant sur son torse les pans de son manteau doublé de renard, Gabrel autorisa le froid à l'atteindre un peu, juste pour ses vertus revigorantes. Même si la neige n'était pas très épaisse, l'air matinal se révélait mordant. Très haut dans le ciel, un oiseau aux larges ailes se laissait porter par le vent. Un aigle, peut-être. L'ornithologie n'était pas le point fort de Gabrel. Les plantes et les minéraux, eux, ne bougeaient pas quand on les étudiait. Même chose pour les livres et les parchemins, encore que ces derniers, trop antiques, s'effritaient parfois entre les mains de l'érudit. À une telle distance, nul n'aurait pu identifier l'oiseau. Mais un aigle collait bien avec ses terres où alternaient des fourrés et des arbres solitaires. Des chênes, des pins et des sapins, qui avaient assassiné la plus grande partie du sous-bois, n'étaient quelques lianes têtues accrochées à un rocher dans l'attente d'un printemps encore lointain. Comme une novice à l'exercice, Gabrel grava ce paysage dans son esprit. Avec Loghain et Tovein pour seuls compagnons, elle aurait presque pu croire qu'elle était loin de la Tournoire, un nom horrible qui lui venait trop aisément à l'esprit désormais. Quand on connaissait les grands bâtiments de pierre qui abritaient des centaines d'hommes en formation, sans parler du village qui avait poussé tout autour, l'endroit se révélait aussi réel que la Tour Blanche. Oui, rien d'imaginaire là-dedans. Contrainte d'y vivre depuis près de 2 semaines, Gabrel avait encore à découvrir certaines parties du complexe, qui s'étendait sur des lieux à l'abri d'une ébauche de murs d'enceinte en pierre noire. Pourtant, dans la forêt, elle pouvait encore se croire ailleurs. Enfin, presque. Car il y avait ce constant fardeau de sensations et d'émotions, l'essence de Loghain Ablar, toujours présente à l'arrière-plan de son esprit. En permanence, une impression de méfiance sous contrôle et de muscles sur le point de se bander. Avec un loup en chasse, ou peut-être un lion, on devait sentir la même chose. Gabrel n'avait jamais eu de champion. Un luxe inutile aux yeux des sœurs Marron, alors qu'un simple domestique pouvait rendre les mêmes services. Et il était vraiment étrange d'être impliqué dans un lien. Surtout au mauvais moment, si on pouvait s'exprimer ainsi. Mais en réalité, c'était pire que ça. L'apprenant dans un réseau d'interdictions, ce lien la forçait à obéir. En d'autres termes, ça n'avait guère de rapport avec la relation d'une Aes Sedai et d'un champion. Pour commencer, les sœurs ne forçaient pas leur champion à obéir, enfin, pas très souvent. Et depuis des siècles, elles ne se liaient plus à des hommes contre leur volonté. Cette situation restait un fascinant sujet d'étude. N'ayant pas ménagé ses efforts afin d'interpréter ce qu'elle captait, Gabrel réussissait parfois à lire les pensées de Loghain, ou presque. À d'autres moments, c'était comme avancer sans lumière dans une galerie de mines. La tête sur le billot, Gabrel aurait encore essayé d'analyser et de comprendre. Et ça n'était pas qu'une image. Mais Loghain aussi la sentait à travers le lien. Un point qu'elle ne devait jamais perdre de vue. Si certains achamans pouvaient penser que les Aes Sedai se résignaient à la captivité, seul un crétin aurait cru que 51 sœurs, toutes liées de force à un homme, ne tenteraient pas de se libérer. N'ayant rien d'un crétin, Loghain savait en outre que ses sœurs étaient venues pour détruire la Tournoire. En revanche, il ne soupçonnait pas qu'elles tentaient toujours de mettre un terme à une affreuse menace, des centaines d'hommes capables de canaliser le pouvoir, par la lumière. Privées de liberté comme elles l'étaient, un seul ordre aurait pu les neutraliser. « Tu ne feras rien qui puisse nuire à la Tournoire. » Pourquoi les achamans n'avaient-ils pas pris cette précaution élémentaire? Quoi qu'il en soit, ses sœurs et elles devaient réussir. Sinon, le monde serait condamné. Ses larges épaules mises en valeur par sa veste noire, sans une touche de couleur, n'étaient l'épée d'argent et le dragon rouge et or fixé au col, Loghain se tourna sur sa selle. Sa cape, également noire, rejetée dans son dos, il semblait défier le froid de l'atteindre. Semblait? C'était peut-être bel et bien le cas, parce que les hommes tels que lui, à tout instant, paraissaient prêts à en découdre avec l'univers entier. Loghain sourit à Gabrel. Pour la rassurer? Avait-elle laissé filtrer trop d'angoisse via le lien? Quel équilibrisme permanent! s'efforcer de contrôler ses émotions, de montrer le bon visage à chaque instant. C'était un peu comme l'épreuve qui permettait d'obtenir le châle. Ce jour-là, en dépit de toutes les causes de déconcentration, chaque tissage devait être réalisé à la perfection, sans droit à l'erreur. Mais l'épreuve ne durait pas des semaines, sans une minute de répit. Voyant que Logan s'intéressait maintenant à Tovein, Gabrielle soupira de soulagement. Un simple sourire engage d'amitié. D'un naturel très sociable, Logan aurait été sympathique dans des circonstances différentes et en étant quelqu'un d'autre. Tovein rendit son sourire à la chamane. Pas pour la première fois, Gabrielle dut s'empêcher de hocher la tête de surprise. Comme si elle entendait se protéger du froid, elle tira sur sa capuche afin de noyer son visage dans les ombres, mais en gardant un angle de vue pour épier la sœur rouge. D'après ce qu'elle savait d'elle, Tovein n'était pas du genre à enfouir profondément ses haines, bien au contraire, et elle abominait les hommes capables de canaliser au moins autant que ses compagnes de l'âge à rouge. Avec Logan Ablar, la détestation était encore pire, puisqu'il avait accusé l'âge à rouge de l'avoir poussé à devenir un faux dragon. Même s'il n'en parlait plus, le mal était fait. Parmi les sœurs prisonnières, certaines pensaient que les rouges étaient tombés dans leur propre piège. Malgré tout ça, Tovein se pâmait devant Logan. Perplexe, Gabrielle se mordilla la lèvre. Bien sûr, des cendres et les mailles leur avaient ordonné à toutes d'entretenir une relation cordiale avec la chamane auquel elles étaient liées. Avant d'agir, il fallait endormir la méfiance de ces types. Mais Tovein se cabrait dès qu'une de ces deux femmes lui donnait un ordre. Peu encline à leur céder, elle aurait sans doute refusé si les mailles n'avaient pas été une sœur rouge comme elle, et tant pis si elle avait affirmé le contraire. Après qu'elle les eut conduites à la captivité, les sœurs avaient cessé de reconnaître son autorité, et elle avait du mal à l'avaler. Pourtant, elle s'était mise à sourire à Logan dès qu'elle en avait reçu la consigne. Dans le même ordre d'idées, comment Logan, à l'autre extrémité du lien, pouvait-il prendre pour argent comptant les minauderies de Tovein? Une énigme que Gabrielle avait tenté de résoudre sans y parvenir. Car enfin, le gaillard en connaissait long sur Tovein. De plus, savoir à quel âge elle appartenait aurait dû suffire. Pourtant, quand il regardait la sœur rouge, Gabrielle le sentait aussi confiant que lorsqu'il se tournait vers elle. Confiant était un bien grand mot, car il se méfiait de tout le monde, moins des sœurs que des achamanes, semblait-il. Et ça, ce n'était pas logique.
« Ce n'est pas un imbécile », se rappela Gabrielle. « Alors, pourquoi ce comportement ? Même question pour Tovein. Elle manigance quoi, exactement ?»
Sans crier gare, la sœur rouge sourit à Gabrielle et lui répondit comme si elle avait posé une de ses questions à voix haute.
« Quand tu es là, »
souffla-t-elle dans un nuage de buée.
« Il est à peine conscient de ma présence. C'est toi qui l'as fait prisonnier, chère sœur. »
Prise au dépourvu, Gabrielle ne put s'empêcher de rougir. Tovein n'était pas du genre à bavarder, et dire qu'elle désapprouvait sa relation avec Logan était un euphémisme au carré. Pourtant, séduire cet homme avait paru une stratégie parfaite pour découvrir ses faiblesses et en apprendre plus long sur ses plans. D'accord, c'était un achaman, mais elle avait reçu le châle bien avant qu'il vienne au monde, et en matière d'homme, elle n'était pas une innocente colombe. Quand il avait vu clair dans son jeu, Logan s'était montré si surpris qu'elle avait failli le prendre pour un pauvre innocent. Quelle idiote! Au bout du compte, jouer les ardentes d'Omani lui avait valu un lot de surprises et quelque chose trappe. Plus un piège dont elle ne pourrait jamais parler à personne, mais dont Tovein, redoutait-elle, était au moins en partie informée. Cela dit, toutes les sœurs qui avaient suivi le même chemin que le sien devaient être au courant aussi, et selon elle, il y en avait plusieurs. Bien entendu, aucune n'avait abordé le sujet, ni ne le ferait jamais. Logan pouvait occulter le lien, d'une manière si primitive qu'elle pensait être en mesure de le localiser, même s'il dissimulait bien ses émotions. Au lit, en revanche, il laissait tomber le masque. Sans exagération, le résultat était dévastateur. Plus de retenue sereine, ni de froideur analytique. Plus de simple raison, même. À la hâte, Gabrielle invoqua l'image du paysage enneigé et la fixa dans son esprit. Des arbres, des rochers, une neige bien lisse. Bien lisse et froide. Logan ne se retourna pas et ne laissa filtrer aucun indice. Pourtant, le lien apprit à Gabrielle qu'il avait senti son bref moment de perte de contrôle. Le bougre en rayonnait d'arrogance et de satisfaction. De justesse, Gabrielle contint sa fureur. Mais c'était une erreur, s'avisa-t-elle. Conscient de ce qu'elle avait capté chez lui, Logan devait s'attendre à ce qu'elle explose. Quand elle lâcha la bonde à sa colère, il en fut amusé et ne tenta même pas de le cacher. Du coin de l'œil, Gabrielle nota le sourire suffisant de Tovein, mais elle n'eut pas le temps de s'apesantir sur la question. Alors qu'ils étaient seuls depuis le début de la matinée, un cavalier apparut. Un type en noir, sans cape ni manteau, qui talonna son cheval dès qu'il les vit, histoire de les rejoindre plus vite. Parangon de calme, Loghain tira sur les rênes de sa monture et attendit. S'immobilisant près de lui, Gabrel se tendit. Dans le lien, les sentiments et les émotions venaient de changer. En Loghain, elle sentait la tension d'un loup qui s'apprête à bondir. Bizarrement, au lieu de voler vers la poignée de son épée, sa main droite gantée reposait toujours sur le pommeau de sa selle. Presque aussi grand que Loghain, le cavalier aux longs cheveux blonds et aux larges épaules affichait un sourire charmeur, en sachant très bien ce qu'il faisait. Pour l'ignorer, il était bien trop beau, bien plus que Loghain, sans nul doute. Alors que des rides sillonnaient le visage de l'un, l'autre arborait la police d'un très jeune homme. Pourtant, l'épée et le dragon brillaient aussi au col de sa veste. Ses yeux bleus plissés, il scruta les deux sœurs, puis lâcha.
« Tu couches avec les deux, Loghain ? La plus en chair a des yeux glaciaux, mais l'autre semble très chaude. »
Tovain en siffla de colère, et Gabrel serra les dents. N'étant pas originaire du Cairien, un pays où on faisait en privé ce qu'on condamnait en public, la sœur Marron n'avait pas essayé de se cacher. Cela dit, ça n'était pas une raison pour clamer la vérité sur tous les toits. Et ce type parlait comme s'ils avaient gardé les cochons ensemble.
« Ne redis jamais ça, Mishraïl, » fit Loghain, extérieurement très calme.
Gabrel s'avisa que le lien avait encore bougé. Il était glacial désormais, au point de faire paraître la neige brûlante. Assez froid pour qu'une tombe passe pour un nid bien chaud. Mishraïl. Atal Mishraïl. Gabrel avait déjà entendu ce nom. En le prononçant, Loghain avait trahi la méfiance que ce type éveillait en lui, bien supérieure à celle que Tovain et elle lui inspiraient. Mais il n'y avait pas que ça. Une envie de tuer. De quoi éclater de rire. Loghain était son geôlier, pourtant, il se serait battu pour défendre son honneur? C'était effectivement risible, mais pas au point de négliger l'information. Dans sa situation, la moindre bribe pouvait être utile. Toujours souriant, le jeune insolent parut ne pas avoir entendu la menace.
« Le Maël dit que tu peux y aller si ça te chante.
Mais pourquoi aurais-tu envie de te coller au recrutement ?»«
Parce que quelqu'un doit le faire. »
Gabrel et Tovain se regardèrent, perplexes. Pourquoi, en effet, Loghain aurait-il voulu se mêler du recrutement ? Depuis qu'elles vivaient à la Tour Noire, elles avaient vu des groupes d'Achamans revenir de cette mission, épuisés d'avoir voyagé sur de longues distances, couverts de crasse et d'une humeur de chien. Les recruteurs du dragon réincarné n'étaient pas toujours reçus à bras ouverts, semblait-il, même avant d'avoir exposé le réel motif de leur venue. Pourquoi Tovain et Gabrel entendaient-elles parler de ça pour la première fois ? Au lit, la sœur Marron aurait juré que l'Achaman lui disait absolument tout. Mishraïl haussa les épaules.
« Beaucoup de dédiés et de soldats se chargent de ce boulot. Mais superviser la formation doit être ennuyeux, à la longue. Apprendre à ces idiots l'art de se déplacer furtivement dans la forêt et d'escalader des falaises, tout ça comme s'ils étaient capables de canaliser un filament de pouvoir. Même une excursion dans un village perdu doit finir par avoir son charme. »
Le sourire du jeune coq vira au rictus.
« Si tu demandes au Maël, il te laissera peut-être participer à ses cours au palais. Là, tu ne t'ennuieras pas. »
Si Loghain ne broncha pas, Gabrel sentit dans le lien une explosion de fureur. Sur les leçons particulières de Mazrim Taïm, les sœurs avaient entendu nombre d'histoires, mais elles ne savaient rien de précis, sinon que Loghain et ses partisans se méfiaient de Taïm et de ses élèves. Taïm, lui, ne faisait pas le moins du monde confiance à Loghain. Manque de chance, les Aes Sedai ne pouvaient pas apprendre grand-chose sur ses cours, car aucune d'entre elles n'était liée à un partisan de Taïm. Certaines affirmaient que l'inimitié entre les deux hommes s'expliquait, puisque les deux avaient jadis prétendu être le dragon réincarné. D'autres voyaient dans leur antipathie réciproque un signe de la folie qui guettait les mâles capables de canaliser. Gabrel n'avait détecté aucun signe de troubles mentaux chez Loghain, et ce n'était pas faute d'y prêter attention. S'il devenait fou alors qu'elle était liée à lui, elle risquait de perdre la raison aussi. Cela dit, tout ce qui pouvait nuire aux Achamans devait être exploité à n'importe quel prix. Sous le regard de Loghain, Mishraïl ravala son rictus.
« Jouis de tes petits privilèges, » dit-il en talonnant sa monture. « La gloire attend certains d'entre nous, Loghain. »«
Ce type ne profitera pas longtemps du dragon qu'il porte au col, » marmonna Loghain. « Il parle beaucoup trop. »
Un instant, Gabrel douta que ce soit une allusion à la remarque grivoise du jeune coq. Mais qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire d'autre ? Et pourquoi Loghain semblait-il soudain inquiet ? Certes, il le cachait bien, surtout si on songeait au lien. Mais ça restait évident, par la lumière. Parfois, savoir ce qui se passait dans la tête d'un homme rendait les choses encore plus confuses. Sans crier gare, Loghain se tourna vers les sœurs et les dévisagea. Dans le lien, de l'inquiétude apparut, provoquée par les deux femmes
ou pour elle. Quelle étrange pensée.
Il va falloir écourter notre promenade, j'en ai peur. Des préparatifs m'attendent.
Sans passer au galop, Loghain accéléra le rythme sur le chemin du retour. Il se concentrait sur quelque chose, devina Gabrel. Une réflexion intense qui se répercutait dans le lien. Dans cet état, il avançait comme un automate. Très vite, Tovein vint chevaucher au niveau de sa compagne. Penchée sur sa selle, elle tenta de sonder son regard, sans cesser de jeter des coups d'œil nerveux à Loghain, comme si elle avait peur qu'il se retourne et les surprenne en train de parler. Bizarrement, elle ne s'intéressait jamais à ce que le lien aurait pu lui apprendre. Pour l'heure, son petit jeu la faisait osciller sur sa selle, au risque d'en tomber.
« Nous devons l'accompagner, »
souffla la sœur rouge.
« À n'importe quel prix, tu dois te débrouiller pour qu'il nous emmène. »
Quand Gabrel fronça les sourcils, Tovein lui fit le plaisir de s'empourprer, mais elle ne désarma pas pour autant.
« On ne doit pas rester en arrière. Depuis qu'il est ici, Loghain n'a pas renoncé à ses ambitions. Quoi qu'il mijote, nous ne pourrons rien faire s'il agit en notre absence.
Je n'ai pas besoin de toi pour voir ce qui est sous mon nez, » lâcha Gabrel, agacé. Constatant que Tovein n'insistait pas, elle se détendit un peu. Pas longtemps, car l'angoisse la submergea. La sœur rouge ne réfléchissait-elle donc jamais à ce qu'elle sentait dans le lien? Un élément présent depuis le début, la détermination, venait de gagner en puissance. Devinant de quoi il s'agissait, Gabrel en avait l'estomac noué. Loghain Ablar allait partir en guerre. Contre qui, elle n'aurait su le dire. Mais il n'y avait aucun doute sur ses intentions. Alors qu'elle descendait un des larges couloirs qui serpentaient paisiblement au cœur de la tour blanche, Yukiri se sentait aussi agacée qu'un chat affamé. Dans cet état, elle parvenait difficilement à comprendre les propos de la sœur qui marchait à ses côtés. Par une matinée plutôt sombre, à cause de la neige qui s'abattait sur Tarvalon, voilant le soleil, les niveaux intermédiaires de la tour étaient aussi glacés que les terres frontalières en hiver. Bon, d'accord, elle en rajoutait peut-être. Voilà beau temps qu'elle n'était plus allée si loin au nord, et la mémoire exagérait ce qu'elle n'occultait pas. D'où l'intérêt des écrits, sauf quand on n'aurait pas osé tracer ne serait-ce qu'un mot. Quoi qu'il en soit, on se gelait. Malgré les multitudes compétences des antiques architectes et maçons, la chaleur des grandes chaudières du sous-sol ne montait jamais si haut. Pour ne rien arranger, des courants d'air malmenaient les flammes des lampes, certains assez forts pour faire onduler les tapisseries qui décoraient les murs. Une alternance de paysages champêtres avec les fleurs, les bois et les animaux exotiques requis est d'illustration des triomphes de la Tour Blanche, des images qu'on n'aurait pas exhibées dans les étages publics plus bas. En un temps, les appartements de Yukiri, avec leurs cheminées, auraient été plus confortables. Dans sa tête, les nouvelles du monde extérieur tourbillonnaient, malgré ses efforts pour ne pas y penser, ou plutôt, en règle générale, pour oublier qu'elle n'en recevait pas de fiables. En provenance de l'Altara et de l'Arad Doman, les rapports des espions se contredisaient les uns les autres. Sur le Tarabon, les rares informations avaient de quoi glacer les sangs. Selon les rumeurs, les dirigeants des terres frontalières étaient partout, de la Flétrissure à Andorre et de l'Amadicia au désert des Aïel. Partout, oui, sauf là où ils auraient dû être, à savoir le long de la frontière avec la Flétrissure, histoire de veiller au grain. Les Aïel aussi avaient essaimé, hors du contrôle d'Altor, semblait-il, en supposant qu'il les ait un jour tenus sous sa coupe. Quant au Mourandi, de quoi grincer des dents et pleurer en même temps, et autant ne pas parler de Kairienne. Parmi les sœurs présentes au Palais du Soleil, certaines devaient être des rebelles, et aucune n'était connue pour sa loyauté. Alors qu'elles auraient dû être revenues à Tarvalon depuis longtemps, on n'avait toujours pas de nouvelles de Coiren et de ses compagnes. Comme si ça ne suffisait pas, Altor lui-même s'était de nouveau volatilisé, disparu comme une bulle de savon. Avait-il vraiment à demi démoli le Palais du Soleil, comme on le prétendait? Lumière. Il ne pouvait pas sombrer déjà dans la folie, à moins que la grotesque offre de protection d'Elaïda l'ait incité à se cacher. Pouvait-il avoir peur de quelque chose? En tout cas, il flanquait la trouille à Yukiri et à tout le hall de la tour, quoi que les autres représentantes veuillent bien en dire. Il restait une certitude. Dans la tourmente actuelle, tout ça n'avait pas la moindre importance. Une idée qui ne faisait rien pour améliorer l'humeur de la sœur grise.
mais redouter de tomber dans un parterre de roses, même si les épines risquaient d'être mortelles, était un luxe quand on avait le couteau sous la gorge.
Ces 10 dernières années, chaque fois qu'elle a quitté la tour, c'était pour s'occuper de ses propres affaires,
murmura la compagne de Yukiri.
En conséquence, il n'y a pas de rapport récent à consulter. Il est très difficile de savoir exactement quand elle était hors de la tour.
Ses cheveux blonds foncés tenus par des peignes d'ivoire, Meidani était grande et assez mince pour paraître déséquilibrée par le poids de ses seins. Une impression renforcée par la coupe de son corsage brodé de fil d'argent et par sa façon de marcher penchée, afin que sa bouche soit au niveau de l'oreille de Yukiri. Son châle posé sur les avant-bras, les longues franges grises balayaient les dalles du sol.
« Redresse-toi !»
dit Yukiri.
« Je ne suis pas sourde !»
Rosissant un peu, l'autre sœur obéit. Après avoir tiré sur son châle, elle jeta un coup d'œil à Léonine, son champion, qui suivait les deux femmes à bonne distance. Si elle captait le tintement des clochettes accrochées à ses nattes noires, il ne pouvait rien comprendre de ce qu'elle disait à voix basse. L'homme savait seulement le strict nécessaire, autrement dit pas grand-chose, à part que son Aes Sedai attendait certaines choses de lui. Pour un bon champion, c'était plus que suffisant. S'il en apprenait trop, il risquait de poser des problèmes, mais ça n'était pas une raison pour chuchoter. Pour attirer l'attention, rien de mieux que les messes basses. Le monde extérieur n'énervait pas davantage Yukiri que sa compagne grise, même si celle-ci avait tout d'une corneille déguisée avec des plumes de cygne. La véritable source de son ire était ailleurs. Cela dit, il restait répugnant qu'une rebelle fasse mine d'être loyale. Pourtant, Yukiri se félicitait que Saïrin et Pevara l'aient convaincu de ne pas livrer à la justice de la tour Meidani et les autres corneilles. Les ailes désormais rognées, ces femmes se révélaient utiles, au point, lorsqu'on les jugerait, de mériter quelque clémence. Cela dit, quand le serment qui avait rogné les ailes de Meidani serait de notoriété publique, Yukiri risquait fort de devoir elle aussi implorer la clémence. Rebelle ou non, ce que les autres et elle avaient fait à Meidani et à ses complices était aussi répréhensible qu'un assassinat ou une trahison. Un vœu d'obéissance personnelle, prêté sur le bâton des serments et sous contrainte, était aussi proche que possible d'une coercition. Un crime indiscutable, même si sa définition restait floue. Tant pis, parfois, pour enfumer les frelons, il fallait se résigner à salir le plâtre. Et les membres de l'âge à noir étaient des frelons aux dards empoisonnés. Le moment venu, force reviendrait à la loi, bien entendu. Sans elle, rien n'existait. Mais Yukiri, pour l'instant, devait tout faire pour survivre à l'opération d'enfumage. La sentence qu'elle encourait, eh bien, on verrait plus tard. Un cadavre ne se souciait pas d'histoire de châtiment. D'un geste, Yukiri fit signe à Meidani de reprendre son rapport, mais trois sœurs marrons, portant leur châle avec ostentation comme des vertes, déboulèrent d'un couloir latéral. Comme toute représentante, Yukiri connaissait de vue et de nom Maris Tornil et Doreis Messianos, des sœurs d'un autre âge que le sien, qui faisaient de longs séjours à la tour. Deux femmes paisibles et concentrées sur leurs études, voilà comment elle les aurait définies. La troisième, Eileen Warrell, avait obtenu le châle si récemment qu'elle aurait pu continuer à saluer les Aes Sedai d'une courbette. Loin de témoigner à une représentante tout le respect requis, les trois sœurs regardèrent Yukiri et Meidani comme des chats auraient considéré deux étranges chiens, ou des chiens deux étranges chats. Rien de paisible là-dedans.
« Puis-je t'interroger sur un point précis de la législation de l'Arafel, représentante ?»
demanda Meidani, comme si c'était le vrai sujet de leur conversation. Quand Yukiri eut acquiescé, sa compagne se lança dans un discours confus sur les droits de pêche en rivière ou en lac, une diversion assez mal choisie. Une magistrate pouvait exposer une affaire de ce type à une Aes Sedai, mais seulement pour étayer sa propre opinion, quand des puissants étaient impliqués, et si elle redoutait qu'ils en appellent au trône. Un seul champion suivait les trois sœurs marrons. Incapable de dire s'il était lié à Maris ou à Doreis, Yukiri remarqua que ce type costaud au visage rond et dur surmonté d'un toupet noir lorgnait l'épée que Léonine portait dans le dos avec une méfiance sans doute inspirée par son Aes Sedai. Menton pointé, Maris et Doreis, toutes deux bien en chair, continuèrent leur chemin, et la sœur maigrichonne récemment nommée allongea la foulée pour les suivre. Comme s'il était en territoire ennemi, le champion suivit le mouvement d'un pas martial. Ces derniers temps, l'hostilité était de mise. Les cloisons invisibles qui séparaient les ajats, naguère à peine assez épaisses pour dissimuler leurs secrets, étaient devenues des murs d'enceinte entourés de douves. Non, pas de douves, d'abîmes sans fond. Désormais, les sœurs ne sortaient plus seules du quartier de leur ajat,
leur champion les accompagnant même à la bibliothèque et au réfectoire. Pour qu'on ne risque pas de les confondre, elles portaient en permanence leur châle. Confirmant la règle, Yukiri arborait le plus beau de sa garde-robe, dont les longues franges de soie pendaient jusqu'à ses chevilles. Une forme d'ostentation, dut-elle reconnaître. Très récemment, elle s'était demandé si 12 ans sans champion ne faisait pas un peu trop longtemps. Une idée horrible quand on y regardait de près. À la Tour Blanche, aucune sœur n'aurait dû avoir besoin d'un protecteur. Pas pour la première fois, Yukiri songea que quelqu'un devait essayer de réconcilier les Ajas. Sans tarder, sinon les rebelles entreraient par la grande porte, insolentes comme des voleuses, et emporteraient tout pendant que les sœurs loyales se disputeraient l'argenterie de la grande tante Sumi. Mais pour dénouer cet écheveau, elle ne voyait qu'un moyen. Meidani et ses complices devaient reconnaître publiquement qu'elles avaient été envoyées à la tour par les rebelles pour répandre des rumeurs, qu'elles continuaient à prétendre vraies, sur Loghain et l'Aja Rouge, dont le faux dragon aurait été la marionnette. Était-ce seulement possible, sans que Pevara le sache? Non. Il n'était pas pensable qu'une représentante, en particulier celle-là, se soit laissée abuser. Quoi qu'il en fût, cet écheveau était emmêlé à tant d'autres désormais que ça risquait de ne pas faire une grande différence. À part priver Yukiri de l'aide de 10 femmes, sur 14, dont elle aurait juré qu'elle n'appartenait pas à l'Aja Noir. Et très vraisemblablement, avant même que la tempête éclate, dévoiler ce qu'elle et les autres avaient fait. Sans aucun lien avec les courants d'air, Yukiri frissonna. Si on en venait là, toutes les femmes susceptibles de révéler la vérité, dont elle, mourraient avant la fin de cette tempête, dans leur lit ou à cause d'un accident. Elle pouvait aussi disparaître, partie de la tour pour ne plus jamais y revenir. Sur ce point, elle ne se faisait pas d'illusions. Et toutes les preuves seraient si profondément enfouies qu'une armée de terrassiers ne pourrait pas les déterrer. Les rumeurs elles-mêmes seraient étouffées, pas pour la première fois. Le monde entier et la plupart des sœurs croyaient encore que Tamra Ospenia avait péri de sa belle mort. Pendant longtemps, Yukiri l'avait cru aussi. Avant de clamer la vérité, il fallait neutraliser l'Aja Noir. Oui, lui lier les pieds et les poings. Dès que les 3 sœurs marrons furent assez loin, Meidani reprit son rapport. Pas pour longtemps, car elle se tut lorsqu'une main poilue, juste devant elle, jaillit de derrière une tapisserie, un vol d'oiseaux multicolores des terres naufragées, et l'écarta, dévoilant une porte qui laissa filtrer un courant d'air glacial. En tenue de travail grossière, un type pâteau entra à reculons dans le couloir en tirant une charrette à bras lourdement chargée de bûches de noyer qu'un autre domestique, tout aussi sommairement vêtu, poussait en haanant. De simples travailleurs, aucun n'arborait la flamme blanche sur la poitrine. Dès qu'ils virent les Aes Sedai, les types laissèrent la tapisserie retomber en place et tentèrent de s'éloigner tout en esquissant de vagues courbettes, si bien qu'il faillit renverser leur chargement et s'en mêler les pinceaux. Très certainement, ils avaient espéré finir leur travail sans rencontrer de sœurs. Alors qu'elle éprouvait une réelle sympathie pour les gens qui devaient monter du bois, de l'eau et d'autres produits par les rampes d'accès des domestiques, Yukiri les dépassa, l'air fermé. Converser en marchant était un bon moyen de ne jamais être entendu. Pour son conciliabule avec Meidani, les couloirs des secteurs communs lui avaient paru un excellent choix. Meilleur que ses appartements, où le moindre tissage contre les oreilles indiscrètes aurait annoncé à tout le quartier gris qu'elle avait une conversation secrète avec la dite Meidani. Pour l'heure, il y avait environ 200 sœurs à la tour, autant dire qu'elle était quasiment vide. Chacune ayant tendance à rester chez elle, les secteurs communs auraient dû être déserts. Oui, auraient dû. Yukiri avait tenu compte des domestiques en livrée qui allaient et venaient pour vérifier les mèches et le niveau d'huile des lampes, entre autres missions, et des divers ouvriers qui ployaient sous le poids de paniers d'osier remplis de la lumière seule savait quoi. Tôt le matin, il y en avait partout, affairés à préparer la tour à la journée qui commençait. Mais dès qu'il voyait une sœur, il s'inclinait et détalait à la vitesse du vent. Conscient qu'espionner une Aes Sedai impliquait un renvoi immédiat, les serviteurs de la tour savaient être discrets et pleins de tact. Avec l'hostilité ambiante, il se montrait encore plus discret et respectueux. Yukiri, en revanche, n'avait pas prévu qu'une multitude de sœurs aimait se promener hors de leur quartier le matin, même s'il fallait braver le froid. Par groupe de 2 ou de 3, des sœurs rouges tentaient d'intimider tout le monde, à part les membres de leur aja. Des vertes et des jaunes s'efforçaient de remporter le prix de l'arrogance, et des marrons leur disputaient âprement ce trophée. Quelques sœurs blanches, toutes sans champion, à part une, s'efforçaient de donner une image de sérénité et de logique, mais non sans sursauter au bruit de leurs propres pas. Dès qu'un de ces groupes disparaissait, un autre ne tardait pas à apparaître. Du coup, Meidani passait plus de temps à évoquer des questions de loi qu'à faire son rapport. « Catastrophe ultime, en avisant des membres de leur aja, des sœurs grises, en deux occasions, avaient souri aux anges et se seraient jointes au duo si Yukiri, d'un hochement de tête, ne les en avait pas dissuadées. De quoi bouillir de colère, puisque ça revenait à clamer qu'elle avait des raisons particulières de rester seule avec Meidani. Même si l'aja noir ne remarquait pas ce détail, veuille la lumière que ce soit le cas, l'espionnage était le dernier jeu à la mode. Et les sœurs, malgré les trois serments, avaient tendance à enjoliver les informations qu'elles colportaient. Alors qu'Elaïda semblait vouloir ramener par la force les ajas sur le droit chemin, ces rumeurs servaient trop souvent de justification à des pénitences. Le mieux qu'on devait espérer, c'était de pouvoir feindre de les accepter parce qu'on les méritait. Yukiri avait déjà écopé d'une, et elle ne tenait pas à passer de nouveaux jours à briquer des sols alors qu'elle avait sur la planche plus de pain qu'elle pouvait en trancher. L'autre branche de l'alternative, un passage dans le bureau de Sylviana, la maîtresse des novices, n'était guère préférable, même si ça économisait du temps. Depuis qu'elle faisait venir Sylviana pour ses propres pénitences supposées, Elaïda se révélait plus dure que jamais. D'ailleurs, toute la tour ne parlait que de ça. Même si elle détestait le reconnaître, la suspicion généralisée incitait Yukiri à se méfier de la façon dont elle regardait les sœurs qu'elle croisait. Des yeux qui s'attardaient, et voilà qu'on passait pour une espionne. Une tête trop vite détournée, et on s'exposait à la même accusation pour cause de furtivité. Pourtant, elle eut du mal à ne pas observer avec insistance les deux sœurs jaunes qui débouchèrent d'un couloir latéral, telles des reines arpentant leur palais. Puisque Atuan Larissette n'avait pas de champion, celui qui les suivait à distance pour préserver leur intimité devait appartenir à Prital Nerbaïdjan, la reine aux yeux verts épargnée de justesse par le gros nez caractéristique des natifs du Saldaea. Sur Prital, Yukiri ne savait pas grand-chose, mais la voir en grande conversation avec Atuan l'inciterait à se renseigner. En robe grise à haut col rayé de jaune, la tarabonaise Atuan était splendide. Tressée et ornée de perles, les cheveux noirs qui lui tombaient jusqu'à la taille encadraient un visage qu'on eût qualifié de parfait, alors qu'il n'était pas vraiment beau. Pour une sœur jaune, elle semblait par ailleurs assez réservée. Plus important que tout, c'était la femme que Meidani et les autres tentaient d'espionner sans se faire prendre. Celle dont elle redoutait de prononcer le nom à voix haute, sauf à l'abri de solides tissages protecteurs. Atuan Larissette était une des trois sœurs noires que Talen connaissait. L'aja noir s'organisait ainsi, trois femmes liées entre elles au point de former un seul cœur, chacune fréquentant une autre sœur noire dont les deux autres ignoraient l'existence. Atuan avait été la troisième de Talen. En conséquence, en la pistant, il y avait une chance de remonter aux deux autres membres de son trio. Juste avant de disparaître à une intersection, Atuan jeta derrière elle un regard qui ne s'attarda même pas sur Yukiri. Pourtant, la sœur grise sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Sans ralentir, elle s'efforça de ne pas trahir son trouble et jeta également un coup d'œil quand elle atteignit le croisement. Tout au fond d'un couloir, Atuan et Prital se dirigeaient vers le cercle extérieur de la tour. Le champion les suivait, et il ne se retourna pas plus qu'elle. Soudain, Prital hocha la tête. En réaction à ce que disait Atuan, à cette distance, Yukiri n'entendait rien, à part le bruit des talons du champion sur les dalles du sol. Un coup d'œil, rien de plus. Aucune raison de s'inquiéter. À tout hasard, Yukiri allongea le pas pour ne plus être en vue si un des trois se retournait, puis elle relâcha le souffle qu'elle retenait sans en avoir conscience. À ses côtés, Meidani l'imita, les épaules soudain affaissées.
« Bizarre l'effet que ça nous fait »,
songea Yukiri en se redressant. Quand elles avaient découvert que Talen était un suppôt des ténèbres, la traîtresse était prisonnière et isolée par un bouclier.
« Pourtant, elle nous terrorisait »,
se souvint Yukiri. Ce qu'elles avaient dû faire pour qu'elle avoue les avait effrayées aussi, mais la vérité leur avait glacé les sangs. À présent, Talen était ligotée, plus serrée encore que Meidani, sans cesse sous surveillance, même quand elle semblait marcher librement. Une façon d'emprisonner discrètement une représentante qui stupéfiait jusqu'à Saïrin. Servile au point de faire pitié, Talen livrait la moindre bribe d'information avec l'espoir que ça lui sauverait la vie, comme si elle avait pu faire autrement. En effet, en elle, il n'y avait plus rien d'effrayant. Contre vents et marées, Pevara avait maintenu que Talen se trompait au sujet de Galina Kasban. Une fois convaincue que sa sœur rouge était en réalité une noire, elle avait piqué une crise de colère une journée durant. Depuis, elle parlait toujours d'étrangler Galina de ses mains. Quand Emeil Kinderod avait été démasqué, Yukiri avait éprouvé un détachement glacé, S'il y avait des suppôts des ténèbres à la tour, pourquoi les sœurs grises auraient-elles été épargnées? Pour tout dire, l'antipathie que lui inspirait Temeil l'avait bien aidé. Pourtant, elle avait gardé son calme, même en s'avisant que la traîtresse avait quitté la tour au moment où trois sœurs étaient assassinées. Cette coïncidence avait ajouté à la liste des suspectes d'autres sœurs également parties à ce moment-là. Mais Galina, Temeil et les autres ne se trouvaient pas à la tour, donc elles étaient hors de portée pour le moment. Et seules les deux premières étaient des suppôts des ténèbres avérés. Atouan, elle, paradait dans les couloirs. Une sœur noire libre d'aller et venir dans la tour et que les trois serments ne liaient plus. Jusqu'à ce que Do et Sin puissent organiser un interrogatoire secret, pas un jeu d'enfant, y compris pour une sœur du même âge, car personne ne devait s'en douter, il faudrait se contenter d'une surveillance circonspecte. Autrement dit, cohabiter avec une vipère sans jamais savoir quand on serait face à elle, ni quand elle déciderait de mordre. Non, c'était pire. Ça revenait à vivre dans un nid de vipères en n'en ayant identifié qu'une. Soudain, Yukiri s'avisa que le grand couloir, devant elle, était désert aussi loin qu'elle pouvait voir. D'un coup d'œil par-dessus son épaule, elle vérifia que seule Léonine les suivait. À part eux, la tour blanche aurait pu être vide. Mais Idani sembla revenir au présent.
« Excusez-moi, représentante. La voir si brusquement m'a coupé le souffle. Mais où en étais-je ? Oui, il semble que Célestine et Anna Reed aient entrepris d'identifier ses plus proches amis au sein de l'Aja Jaune et en dehors. »
Sœur Jaune également, Célestine et Anna Reed étaient des complices de Meidani. Dans leur groupe, il y avait deux membres de chaque Aja, sauf le rouge et le bleu, bien entendu. Une configuration qui s'était révélée très efficace.
Je crains que ça ne nous avance pas à grand-chose. Elle a beaucoup d'amis. Enfin, elle en avait, avant que les relations entre les Aja se délitent.
Si elle resta impassible, Meidani ne put empêcher sa voix de trahir une profonde satisfaction. Malgré le serment supplémentaire, elle restait une rebelle.
« Enquêter sur toutes ses sœurs sera difficile, voire impossible. Oublie-la pour le moment. »
Yukiri dut faire un effort pour ne pas regarder frénétiquement autour d'elle. Voyant onduler une tapisserie aux motifs floraux, elle se figea, jusqu'à ce qu'il soit évident que c'était l'œuvre des courants d'air et pas d'un serviteur émergeant d'une rampe d'accès. Incapable de dire où elles étaient exactement, elle se méfiait de tout, et le sujet qu'elle voulait aborder serait aussi dangereux que le précédent.
Cette nuit, je me suis souvenu que tu étais novice en même temps qu'Elaïda. Des amis très proches, je crois. Il serait judicieux de renouer cette relation. Ça remonte à des années.
Marmonna Meidani. Comme si elle avait froid, elle resserra sur son torse les pans de son châle.
Elaïda a mis un terme à notre lien quand elle a été nommée acceptée, de peur d'être accusée de favoritisme si j'étais dans une de ses classes. Félicite-toi de ne pas avoir compté parmi ses favorites.
Raya Yukiri. La dureté d'Elaïda ne datait pas d'aujourd'hui. Avant de partir pour Andorre, des années plus tôt, elle avait poussé si impitoyablement ses préférés que des sœurs avaient dû intervenir à plusieurs reprises. Si bizarre que ça semble, Suan Sanche était du nombre des « victimes », même si elle n'avait jamais eu besoin qu'on l'aide parce qu'elle n'était pas à la hauteur des critères de la tour. Étrange et triste tout ça.
« Quoi qu'il en soit, tu vas faire ton possible pour renouer cette relation. »
Meidani fit une dizaine de pas dans le couloir. Ouvrant et fermant la bouche, elle tira et retira sur son châle, tortilla les épaules comme si elle voulait en chasser un temps, et regarda partout, sauf à l'endroit où se tenait Yukiri. Avec un si mauvais contrôle de ses nerfs, comment cette femme pouvait-elle appartenir à l'âge agri ?
« J'ai essayé !»
souffla-t-elle enfin, sans soutenir le regard de Yukiri.
« Plusieurs fois, mais Alviarine, la gardienne des chroniques, m'a toujours bloqué. La chair d'Amirlin était occupée. » Elle avait un rendez-vous. Il lui fallait du repos. Toujours une bonne excuse. Je crois qu'Elaïda ne veut plus d'une amitié qu'elle a reniée il y a plus de 30 ans.
Les rebelles avaient donc eu la même idée que Yukiri? Avec quel objectif? L'espionnage, sans doute. Il faudrait découvrir comment Meidani aurait transmis les informations ainsi glanées. Quoi qu'il en soit, la rébellion avait fourni un outil que Yukiri n'hésiterait pas à utiliser.
Alviarine ne te bloquera plus. Elle a quitté la tour hier ou avant-hier. Personne ne sait exactement. Selon les domestiques, elle a emporté des vêtements de rechange, donc elle ne reviendra pas avant des jours. Par un temps pareil, où peut-elle être allée ?
Marmonna Meidani.
Il neige depuis hier matin, et avant, ça menaçait déjà de tomber.
Yukiri s'arrêta, prit sa compagne par les épaules et la força à la regarder en face.
La seule chose qui doit t'intéresser, Meidani, c'est qu'elle est absente.
Cela dit, la question était pertinente. Avec toute cette neige, où avait pu aller Alviarine ?
Un chemin te mène directement à Elaïda, et tu l'emprunteras.
quand ce sera fait, essaie de savoir si quelqu'un lit ces documents, sans te faire surprendre, bien sûr. »
Selon Talen, l'agent noir connaissait à l'avance tout ce qui sortait du bureau de la chaire d'Amerlin. Pour découvrir comment c'était possible, il fallait une personne très proche d'Elaïda. Alviarin voyait tous les documents avant qu'Elaïda les signe, et elle était sans doute la plus puissante gardienne des chroniques de l'histoire. Pas une raison pour l'accuser d'être un suppôt des ténèbres, mais pas davantage pour exclure cette éventualité. Et on enquêtait aussi sur son passé. Meidani soupira, puis hocha la tête à contre-cœur. Bien obligée d'obéir, elle mesurait les risques supplémentaires si Alviarin était un suppôt des ténèbres. Cela dit, quoi qu'en pensent Saïrin et Pevara, Elaïda elle-même pouvait être une sœur noire. Un suppôt des ténèbres à la tête de la Tour Blanche. Une idée à glacer les sangs.
« Yokeri !»
cria une voix féminine dans le dos de la sœur grise. Une représentante du hall de la tour n'était pas censée sauter comme un cabri en entendant son nom. Pourtant, ce fut exactement la réaction de Yukiri. Si elle ne s'était pas accrochée à Meidani, elle aurait même pu en tomber de terreur. Et elle sentit que les jambes de sa compagne flageolaient aussi. De loin, elle devait ressembler à deux paysannes ivres au bal des récoltes. Se ressaisissant, Yukiri tira sur son châle, puis afficha un visage fermé qui ne s'épanouit pas lorsqu'elle vit qui se précipitait vers elle. Quand elle n'était pas avec Yukiri, ou une des autres représentantes informées au sujet de Talen et de l'Aja Noir, Sehein était censée ne pas s'éloigner du fief de son Aja, avec autour d'elle autant de sœurs blanches que possible. Et voilà qu'elle errait dans les couloirs, en compagnie de la seule Berneil Gelbarn, une solide tarabonaise qui comptait parmi les corneilles de Meidani. En s'écartant, Léonine salua Sehein, le bout des doigts pressé sur son cœur. En crétine de haut vol, Meidani et Berneil allèrent jusqu'à se sourire. Même si elles étaient amies, quand on risquait de les surprendre, elles auraient pu se retenir. Yukiri, elle, n'était pas d'humeur à sourire.
« On prend l'air, Sehein ?»
grinça-t-elle.
« Quand je le lui dirai, Saïrin ne sera pas contente. Pas contente du tout. Comme moi. »
Meidani émit un petit son étranglé et Berneil secoua la tête, faisant s'entrechoquer ses multiples nattes ornées de perles. Prudente, les deux complices s'absorbèrent dans la contemplation d'une tapisserie censée illustrer l'humiliation de la reine Rhiannon. Même si rien ne transparaissait sur leur visage, elles auraient donné cher pour être ailleurs. À leurs yeux, les représentantes étaient toutes des égales. Et c'était vrai, en principe, enfin, normalement. Léonine était trop loin pour avoir entendu quoi que ce soit, mais il capta les émotions de Meidani et s'éloigna d'un pas de plus, sans cesser de monter la garde. Un brave homme. Et un sage aussi. Sehein eut assez de bon sens pour mimer la surprise. D'instinct, elle lissa sa robe ornée de broderies blanches sur le corsage et l'ourlet, mais ses mains volèrent très vite vers son châle, et elle redressa fièrement le menton. Fille d'un ébéniste de Lougarde, elle avait réussi à convaincre son père d'acheter deux passages en bateau pour sa mère et elle. Deux allées, mais un seul retour. Et depuis son arrivée à la tour, elle faisait montre d'une détermination d'acier, combinée à un mépris souverain du monde extérieur digne d'une sœur marron. Les sœurs blanches étaient souvent ainsi. Beaucoup de logique, mais peu de jugeote.
« Yukiri, »
dit-elle,
« je n'ai aucune raison de jouer à cache-cache avec la jeune noire. »
La représentante grise fit la grimace. Quelle idiote! Parler de la jeune noire en public. Aussi loin qu'on y voyait, le couloir était vide, mais ce n'était pas une raison pour mettre un doigt dans l'engrenage infernal de la négligence. À l'occasion, Yukiri était une tête de mule, mais elle ne se comportait jamais comme une crétine. Alors qu'elle ouvrait la bouche pour dire ses quatre vérités à Sehein, l'imbécile reprit la parole.
« Saïrin m'a autorisé à venir te voir. »
Les lèvres pincées, Sehein rosit, l'embarras d'avoir dû demander la permission. Bien sûr, on pouvait comprendre que sa situation l'emplisse d'amertume. Mais pour ne pas l'accepter, il fallait être stupide.
« Je dois te parler en privé, Yukiri, au sujet du second mystère. »
Un instant, Yukiri fut aussi surprise que Meidani et Berneil le paraissaient, car si elles faisaient mine de ne pas écouter, leurs oreilles restaient ouvertes. Le second mystère? De quoi parlait Sehein? Minute. Faisait-elle allusion à ce qui avait entraîné Yukiri dans la traque de la Janoire? Aujourd'hui, découvrir pourquoi les dirigeantes des Ajas se réunissaient en secret était bien moins important que de démasquer les sœurs noires.
« Très bien, Sehein, »
dit Yukiri, avec un calme qu'elle n'éprouvait pas.
« Meidani, avec Léonine, allez le plus loin possible dans le couloir, du côté gauche. Sans tourner et cessez de nous voir. Si quelqu'un arrive, faites-nous signe. Berneil, fais la même chose à droite. »
Les corneilles ne se le firent pas dire deux fois. Dès qu'elles furent assez loin, Yukiri se concentra sur Sehein.
« Je t'écoute. »
L'aura du Saïdar enveloppa soudain la représentante blanche, qui tissa autour d'elle une défense contre les oreilles indiscrètes. La meilleure façon d'informer tout le monde qu'on avait une conversation secrète. Il valait mieux que ce soit important.
« Réfléchis rationnellement à ce que je vais te dire. »
fit Sehein d'un ton posé, mais sans cesser de serrer très fort son châle. Le dos très droit, elle dominait nettement Yukiri, alors qu'elle n'était pas bien plus grande que la moyenne.
« Voilà plus d'un mois, presque deux, qu'Elaïda m'a contacté pour me charger d'une enquête, et deux semaines que tu nous as percés à jour, Pevara et moi. Si l'Aja Noir savait à mon sujet, je serais déjà morte. Oui, Pevara et moi, nous aurions disparu avant que Doessin, Saïrin et toi vous avisiez de ce que nous faisions. Donc, on peut conclure que les sœurs noires ne savent rien sur nous toutes. J'avoue avoir eu peur au début, mais je me suis reprise. Vous n'avez plus aucune raison de me traiter comme une novice, dépourvue de cervelle qui plus est.
« Tu devrais en parler à Saïrin, »
lâcha Yukiri. Depuis le début, Saïrin avait tout pris en main. Après 40 ans au hall pour le compte des sœurs marrons, elle était très douée pour ça. Sauf cas de force majeure, Yukiri n'avait aucune envie de la défier, d'autant plus que son statut de représentante, face à une collègue, ne lui vaudrait aucun avantage. Donc, autant essayer d'arrêter la chute d'un rocher. Si Saïrin se laissait convaincre par Sehein, Pevara et Doessin s'aligneraient sur sa position, et elle ferait de même.
Et le second mystère, à présent? Tu faisais allusion aux rencontres entre les dirigeantes des Aja?
Sehein imita à la perfection l'obstination d'un mulet, mettait les oreilles repliées en arrière.
Celle de ton Aja,
dit-elle enfin.
A-t-elle joué de son influence pour la nomination d'Andaya au hall? Plus que d'habitude, je veux dire. On peut exprimer les choses ainsi.
Dans l'Aja, tout le monde aurait juré qu'Andaya serait nommée représentante, dans 40 ou 50 ans, par exemple. Mais Serancha l'avait désignée, alors qu'il était d'usage de nommer deux ou trois candidates consensuelles avant de procéder à un vote. Mais tout ça, c'était la cuisine interne de l'Aja, un aussi grand secret que le titre de Serancha pour le monde extérieur.
« Je le savais !»
s'exclama Sehein, avec une ferveur peu caractéristique.
« Selon Saïrin, Jwilayne, dans l'Aja marron, a bénéficié du même coup de pouce, ce qui n'est pas coutumier. Même chose pour Suana, à en croire Doessin, quand elle s'est enfin décidée à parler. À mon avis, Suana pourrait bien être la dirigeante des Sœurs Jaunes. » Quoi qu'il en soit, elle a été représentante 40 ans durant, la première fois. Et tu sais qu'il est rare de retrouver un siège après avoir été au hall si longtemps. Idem pour Ferran, qui siégeait pour l'Aja Blanc il y a moins de 10 ans. Personne n'est revenu au hall si vite. Cerise sur le gâteau, selon Talen, les sœurs vertes avaient dressé une liste de candidates pour qu'Adelorna, leur capitaine général, en choisisse une. Mais elle a nommé Rina, sans respecter le protocole.
D'extrême justesse, Yukiri parvint à ravaler une grimace. À la tour, tout le monde avait son idée sur l'identité des dirigeantes. Sinon, comment aurait-on pu soupçonner les fameuses réunions? Mais citer des noms était au minimum inconvenant. À part une représentante, ça pouvait valoir une pénitence. Bien entendu, au sujet d'Adelorna, Sehein et elle étaient au courant. En quête de clémence, Talen trahissait tous les secrets de son Aja sans qu'on ait besoin de le lui demander. Une situation qui les embarrassait toutes, à part la principale intéressée. Au moins, ça expliquait pourquoi les sœurs vertes s'étaient tellement indignées quand Adelorna s'était vue infliger le fouet. Cela dit, Aja combattant ou non, capitaine général, était un titre ridicule. Premier clerc, en un sens, décrivait la fonction de Serancha. Au bout du couloir, avant le tournant, Meidani et son champion conversaient sans relâcher leur vigilance. De l'autre côté, Bernail se tordait le cou pour sonder le corridor sans pour autant perdre de vue Yukiri et Sehein. En sautant frénétiquement d'un pied sur l'autre, elle attirerait l'attention, c'était sûr. Mais par les temps qui couraient, une sœur solitaire loin du fief de son Aja prenait des risques, et elle le savait. Cette conversation allait devoir se terminer. Yukiri leva un pouce.
« 5 Aja ont dû nommer de nouvelles représentantes, après que les anciennes eurent rejoint les renégates. »
Sehein acquiesçant, Yukiri leva un index.
« Chacun de ces Aja a choisi une candidate qui ne s'imposait pas. »
Sehein acquiesçant encore, un majeur se leva.
Les sœurs marrons ont dû nommer deux représentantes.
Mais tu n'as pas mentionné Shevan. Il y a quelque chose qui cloche avec elle?
Non. D'après Saïrin, Shevan était sa remplaçante désignée le jour où elle se serait retirée. Mais, Sehein, si tu insinues que les dirigeantes des Aja ont comploté pour nommer ses représentantes, et je ne peux pas imaginer une idée plus grotesque, pourquoi aurait-elle choisi 5 femmes surprenantes et une qui ne l'est pas du tout? Tout d'abord, oui, c'est ce que j'insinue. Depuis que vous me gardez pratiquement sous les verrous, les autres et toi, j'ai eu plus de temps qu'il n'en faut pour réfléchir. Jwilayne, Rina et Andaya m'ont mis la puce à l'oreille. Ferran, elle,
m'a décidé à enquêter.
Comment ça ? Mis la puce à l'oreille. Ah, oui. Comme Juilaine, Rina et Andaya n'étaient pas assez âgées pour siéger au hall, en réalité. La coutume consistant à ne pas évoquer l'âge des sœurs revenait vite à occulter cet élément.
Deux sœurs, bizarres, ça aurait pu être une coïncidence,
continua Céane.
Peut-être même trois, en tirant un peu. Mais cinq ! Si on oublie les sœurs bleues, l'Aja Marron est le seul qui a perdu deux représentantes au bénéfice des rebelles. Le choix d'une jeune candidate et d'une moins jeune doit avoir une raison, même si elle m'échappe. Mais tout ça correspond à un plan, Yukiri. Un mystère. Même si je ne saurais dire pourquoi, nous devons résoudre cette énigme. Et vite, avant l'arrivée des rebelles. J'ai l'impression qu'une main pèse sur mon épaule, mais quand je me retourne, il n'y a personne.
Quand même, imaginer un complot des dirigeantes était grotesque.
Peut-être,
songea Yukiri.
Et des représentantes qui conspirent, ça semble encore plus farfelu. Et pourtant, j'en suis une.
Un élément très simple étayait la thèse de Céane. Alors qu'aucune sœur extérieure à un Aja ne devait savoir le nom de sa dirigeante, toutes les chefs se connaissaient entre elles.
Si c'est vraiment une énigme, tu auras tout le temps de la résoudre. Quoi qu'elles aient raconté, les renégates ne pourront pas quitter le Murandi avant le printemps, et venir ici leur prendra des mois, si leur armée ne se débande pas en chemin.
Hélas, cette éventualité était de moins en moins plausible.
Retourne chez toi, avant que quelqu'un nous voie enveloppé de Saïdar, et réfléchis à ton mystère.
Yukiri posa une main sur le bras de Céane.
Jusqu'à ce que nous soyons toutes sûres que tu ne risques rien, tu devras supporter d'être surveillée en permanence.
S'il ne s'était pas agi d'une représentante, on aurait pu dire que Céane tira la tête.
« J'en reparlerai à Saïrine, »
fit-elle, alors que l'aura du Saïdar se dissipait. Le cœur lourd, Yukiri regarda Bernail et Céane s'éloigner en direction des quartiers des Aja, chacune faisant penser à une biche dans un bois grouillant de loups. De quoi regretter que les rebelles ne puissent pas arriver avant l'été. Cet événement, en ressoudant les Aja, aurait épargné aux sœurs de se sentir en danger au sein de la tour.
« Autant rêver qu'il ne pousse des ailes, »
pensa Yukiri, morose. Résolue à ne pas céder à son humeur mélancolique, elle alla rejoindre Meidani et Léonine. Lancée sur la piste d'une sœur noire, elle était dans son élément. Une énigme qu'elle se sentait capable de résoudre.